Regardez bien, madame, les légumes culbutent sur eux-mêmes. Les râpes souples de Légumex atteignent à la fois les creux et les bosses en respectant intégralement la forme du légume. Oui, madame, oui, monsieur, tout dans Légumex a été conçu pour votre satisfaction. Regardez-le, détaillez-le, épluchez-le. Légumex, lui, épluche tout. Légumex.
Le 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre fixe le sort de l'une des entreprises françaises les plus célèbres au monde. Moulinex est cédé, pour reprendre les termes des magistrats, partiellement à son concurrent de toujours, Seb. Partiellement, en langage moins châtié et plus brutal, cela signifie la fermeture de 4 usines, toutes situées en Basse-Normandie, mais aussi d'un grand nombre d'autres sites dans le monde, notamment en Pologne, en Allemagne, en Irlande, au Brésil. Près de 70 ans après sa création par l'entrepreneur Jean Mantelet, l'entreprise disparaît à jamais. Seule la marque demeure dans les rayons des supermarchés. Quelques mois après cette débâcle industrielle, nous avons cherché à rencontrer les acteurs de cette histoire et à comprendre comment le numéro 1 du petit électroménager dans les années 70 dépose son bilan 30 ans après. Les PDG et les cadres dirigeants ne se laissent pas approcher facilement, surtout quand leurs missions ont échoué à ce point. Il a fallu bien des relances et à nouveau de longs mois pour que la majorité d'entre eux acceptent de nous raconter à leur manière le jeu auquel ils ont participé et qui a conduit finalement plusieurs milliers de salariés droit dans le mur.
La mécanique du pire, c'est le titre d'un film documentaire de Gilles Balbastre qui va passer lundi sur la 5 à 15h30. Et c'est un document tout à fait passionnant, vous avez compris, qui s'attache à Moulinex, à la chute finale de cette entreprise spécifiquement française. Qui était Moulinex, même si la marque reste. La mécanique du pire présente l'intérêt de voir les choses du côté, effectivement, comme cette voix vient de le dire, du côté non pas, comme on le fait un peu toujours, du côté des victimes, du côté des salariés, des licenciés, mais du côté, cette fois-ci, des cadres, du côté des PDG, du côté des dirigeants qui ont accepté d'expliquer, de s'expliquer sur la façon dont cette histoire est arrivée. Et ce film fait écho à un papier qui sort ce lundi dans Le Monde diplomatique, signé de l'économiste Frédéric Lordon, qui s'intitule « Comment la finance a tué Moulinex » ou « Moulinex comme miroir de la mondialisation ». Depuis des années, on connaît ces histoires terribles de licenciements, de plans sociaux et d'entreprises qui ferment de cette façon. On a fait nous-mêmes un nombre de reportages. Mais là, cette fois, c'est cette entreprise... On aurait pu en prendre d'autres, mais c'est celle-là qui a été choisie comme peut-être plus franchouillarde que d'autres, comme à la fois miroir de la mondialisation et mécanique du pire. Alors on est ensemble avec Gilles Balbastre, le réalisateur, avec Frédéric Lordon, et qui est l'auteur, qui est économiste et chercheur au CNRS, qui est l'auteur de La vertu et la vertu sauvera le monde, avec des points de suspension dans la collection Raison d'agir, et puis Thierry Lepan, qui est syndicaliste à la CGT et qui a vécu toute cette histoire d'un bout à l'autre, toute l'histoire de la fin de Moulinex. C'est jusqu'à 18h sur Inter, la basse suffisante.
Nous sommes dans les années 60. Moulinex vend comme des petits pains les produits qui sortent de ses usines normandes.
Monsieur Mantelet, avec toutes ces idées qui sont arrivées, a créé une quantité de produits nouveaux avec des grandes idées. C'est le robot mari, le mixeur, c'est le robot, c'est les petits fours.
Elle a son rugueuse et son noir, ça fait ton désespoir, et j'en ressens l'amertume.
C'est beaucoup de choses comme ça qui ont fait que bah, le besoin s'en est fait sentir auprès des consommateurs, et puis que ça a permis ce que l'on a fait.
Tes mains t'ont donné des complexes, mais tout ça c'est fini grâce à mon légumet.
La moulinette, c'est un produit qui paraissait basique, hein, hacher de la viande. Mais ce produit est arrivé à se produire à 18 000 pièces par jour. Et on a retrouvé ce produit-là partout dans le monde.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Gilles Balbastre, Frédéric Lordon et Thierry Lepan, Moulinex, la mécanique du pire.
Flight number 2, arriving from New York.
Tout l'encadrement est parti avec en plus des très grosses primes de licenciement, on va dire, pour leur effort accompli. Mm. Voilà.
Ils sont trop gourmands, ils veulent tout de suite, ils veulent de l'argent pour faire de l'argent, ils n'en ont jamais assez, ils nous coulent nous. Ils mettent nos familles en péril, ils mettent l'équilibre en péril, ils mettent des régions en péril, parce que nous maintenant, ben, dans la région, trois moulinex, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup d'emplois et ça fait beaucoup de familles en déroute. Donc, je pense qu'à un moment donné, moi, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. On ne devrait pas avoir le droit de faire des choses comme ça.
Si les salariés pensent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'est ce monde de compétition, d'ouverture, de concurrence, un monde qui n'est plus celui de la France de l'Ouest sur un marché hexagonal, qui n'est plus le marché hexagonal dans l'Europe, qui est un monde où ces entreprises sont complètement immergées dans une concurrence mondiale. Nous n'avons pas fait suffisamment, et en particulier nous à gauche, de pédagogie pour expliquer ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui refusent de manière magique, artificielle, quasiment comme si on était dans un monde de sortilège, la réalité économique qui, qu'on le veuille ou non, est une réalité aussi forte que la loi de la pesanteur.
Je peux prendre mon acier. Plus je le regarde, plus je... La pédagogie de Piret. C'est terrible.
Quand je l'ai rencontré sur le dossier Moulinex, je l'ai vu dire ça.
Ah oui, oui.
Je pensais pas qu'il redirait.
Surtout le 23 avril.
Ouais. Nous, on était stupéfaits.
Ah, mais lui, il me disait, j'aurais rêvé qu'il le dise. J'aurais pas cru.
Et puis ce mépris.
Je veux dire, la citation de Piret sur laquelle on a commencé l'émission, laisse pantois. Moi, j'en suis resté avec la mâchoire pendante, mais comme un tiroir de commode fracturé, hein, c'était extraordinaire. Et on se pinçait mutuellement. Moi, j'aurais, dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais espéré un aveu pareil. Et là, il était clair cristallin.
Si les salariés pensent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'est ce monde de compétition, d'ouverture et de concurrence. Nous n'avons pas suffisamment, nous, à gauche, fait de pédagogie pour expliquer ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui refusent de manière magique la réalité économique qui, qu'on le veuille ou non, est la réalité aussi forte que la loi de la pesanteur. Voilà, alors tout le monde se dit, Mermet est en train de lire une phrase d'Alain Minc ou de ses épigones. Eh bien, pas du tout, c'est une phrase du secrétaire d'État à l'industrie du gouvernement Jospin, un certain Christian Pierret, qui parle ainsi dans le film de Gilles Balbastre qu'on va voir pas plus tard que lundi prochain, ce lundi, sur Gilles Balbastre.
Sur France 5 à 15h45.
15h45 précis, c'est pas facile là, hein. Il faisait vraiment pour les happy few.
Ben, c'est un peu mieux que le dernier là, qu'ils ont repassé, le dernier film qui s'appelle Le chômage d'une histoire. Ils l'ont repassé le dimanche à 7h du matin. Donc là, lundi à 15h45, c'est un peu mieux. Disons que l'équivalent d'un bouquin, c'est pour le dimanche 7h, c'est édité uniquement dans la Creuse. Là, j'ai tout le Limousin. Et j'ai beaucoup de respect pour le Limousin.
Voilà, alors Gilles Balbaz fait le malheureux, mais en fait, il a tout un plan multimédia hein, pour la sortie de son film. D'abord, il y a cette émission que nous sommes en train de faire. France Inter, c'est quand même pas rien. Et puis, il y a un papier dans le Monde diplomatique de ce mois de mars. Donc voilà, on va parler de ce film, Moulinex, ou, on a compris que c'était Moulinex, j'espère, ou La mécanique du pire, avec Gilles Balbastre qu'on vient d'entendre, avec Frédéric Lordon qui est économiste et qui signe dans le Diplo un papier sur ce thème sur lequel vous avez travaillé avec Gilles.
Nous avons travaillé ensemble, effectivement. Gilles est venu me voir c'était en 2002, il commençait la préparation de ce film et il avait besoin d'un économiste de service. Alors je me suis dit pourquoi pas, le sujet était intéressant, c'était pas ma spécialité a priori, mais je m'y suis mis, on a découvert des choses assez intéressantes.
Et puis aussi Thierry Lepan, qui est le dernier des Mohicans de cette aventure Moulinex. Vous étiez délégué CGT.
Oui, c'est ça.
Vous étiez, hein, c'est
terminé. J'étais, oui, le dernier licencié du groupe Moulinex, un des derniers, salarié à Cormel-le-Royal, aujourd'hui privé d'emploi. Et comme il fallait un cinéaste, un économiste, il fallait bien aussi un ouvrier, je suis là.
Moi, je vois pas l'avenir en rose. On a encore des enfants élevés. Ils sont petits quelquefois. Et pour les personnes qui étaient en couple chez Moulinex, c'est une catastrophe. Ils se retrouvent à deux sans emploi. C'est vrai que je vois pas ça rose. Et faut essayer de croire à la réindustrie, mais c'est vrai qu'on n'y croit pas beaucoup, quoi, par rapport aux propositions qui sont faites. La cellule de reclassement, c'est bien. Elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, mais quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail.
Que les gens qui n'ont pas fini de payer leur maison, ça fait 30 ans, 20 ans ou 15 ans qu'ils sont. Moi, j'en connais, il leur reste plus que 2 ans à payer, ils ont 5000 francs à payer. Il y en a une hier, elle me disait encore à Cormel, il me reste 5500 à donner tous les mois pendant 5 ans encore. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle disait qu'elle allait revendre sa maison, mais elle pourra pas en racheter une autre, puisqu'elle en doit encore. Voulez-vous qu'elle aille chercher le pognon pour payer sa maison?
En l'espace de quelques mois, tout s'enchaîne. Puis annonce lui aussi un énième plan qu'il ne parvient pas à mener à bien, faute de soutien des banques et de l'actionnaire Elfi. Le dénouement est alors d'une logique implacable. Moulinex est en dépôt de bilan le 7 septembre 2001 et dépecé en faveur de Seb le 22 octobre.
Le film commence avec un résumé très, très ramassé de l'affaire. 22 octobre 2001, Moulinex est cédé à Seb. 4 usines ferment après 70 ans d'existence, hein, terminé Moulinex. Plusieurs milliers de salariés vont droit dans le mur. Ça, c'est un petit peu quand même vague. Alors, on a envie de savoir tout de suite le bilan social, Thierry Lepan, où combien ont été concernés par ce plan social et où en sont-ils aujourd'hui?
Oui,
depuis le 20 octobre 2001.
Alors, on a fait preuve d'imagination chez Moulinex, comme dans tous les plans sociaux. On a aujourd'hui, sur 3600 salariés, qui ont perdu leur emploi, des gens qui tous les matins allaient au travail et qui aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, n'y vont plus. 30% de ces gens-là qui aujourd'hui ont une solution qualifiée de sociale, c'est-à-dire des gens qui sont en pré-retraite, partis en retraite, ou qui ont bénéficié, comme on dit dans les ministères aujourd'hui, de mesures amiantes, en fait, plus simplement, des gens qui meurent plus tôt, oui, des gens qui vont mourir plus tôt, parce qu'ils ont été amiantés, ils sont victimes, et donc ils arrêtent de travailler à 52, 53, 54 ans. Tout ça, ça fait à peu près 30% des effectifs. Et puis, on a 30% des gens qui ont retrouvé un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de plus de 6 mois, ou alors qui sont en formation. Alors là, c'est pareil, on est 30% comme ça, ça fait à peu près 1000 personnes. 1000 personnes, c'est quand même pas un mince volume dans une région comme la nôtre.
Qui ont pu rester sur place?
Qui essayent de rester sur place, qui est quand même relativement difficile. Et puis qui errent entre une partie en activité, une partie chômage. Et puis 30 autres pourcents qui sont aujourd'hui privés d'emploi complètement, pour qui il n'y a plus de solution, et pour qui, y compris la réforme récente des ACEDIC, leur supprime les 6 derniers mois de revenus, et donc qui les plonge dans l'angoisse à partir du mois de février, donc en ce moment même. Et il en manque 10. Les 10%, ce sont les près de 400 salariés qui aujourd'hui sont classés comme étant en grande difficulté sociale, en grande difficulté sanitaire, et qui sont en marge d'exclusion. Ça veut dire que en 2 ans et demi, on a des gens qui se levaient tous les matins, allaient au travail, faisaient leur travail, avaient un salaire, faisaient vivre leur famille, qui aujourd'hui sont en voie de marginalisation et qui n'ont plus cette faculté de pouvoir vivre de, ou de leur salaire ou de leur indemnité de chômage. Alors l'alcoolisme, tous ces mots qu'on connaît bien dans ces cas-là et qui ne permettent pas à ces salariés de retrouver aujourd'hui une activité parce que le monde dans lequel on est refuse, y compris après les avoir licenciés, de les réinsérer dans le monde du travail.
Par contre, les dirigeants, les cadres et tous ceux qui ont dirigé cette entreprise ces derniers temps, enfin dans la dernière étape, ben s'en tire pas si mal. Il n'y a pas que des malheureux dans cette histoire.
Non, non, vous avez raison. On parle beaucoup des capitaines d'industrie.
Il faut être équilibré quand on fait un bilan.
Oui, bien sûr. On parle beaucoup des capitaines d'industrie. En fait, il y a les maréchaux, ceux qui décident et qui s'en sortent tout le temps. Puis les fantassins, ceux qui vont au combat, comme nous. On a fait ce qu'on nous a demandé, du mieux qu'on le pouvait. Et puis après, quand ces mêmes maréchaux ont décidé que l'affaire n'était plus suffisamment rentable, eh ben on est remis dans nos écuries et on attend de retrouver du travail.
Le jeu économique auquel participent les acteurs d'une entreprise ne s'achève pas de la même manière pour les uns et pour les autres. Roland Darnaud, Michel Van Orenberg et Gilbert Torelli gèrent chacun dans leurs demeures respectives les sommes importantes qu'ils ont retirées de la sortie du RES. Jules Coulon est à la retraite après avoir récupéré la direction du groupe d'emballage Nord-Est. Pierre Blaillot a rejoint le groupe de transport Géodis en tant que PDG, suivi par Alain Picard au poste de directeur du plan. Patrick Puy profite aujourd'hui de ses confortables indemnités de départ. Michel Hibert et Max Mata sont respectivement directeur général et DRH au sein de la multinationale Rodia. Jean-Charles Naouri, à la tête de RIS, est placé en 2000 par le magazine Challenge, 10e fortune française, avec 18 milliards de francs. Philippe Bidot fait partie de l'équipe de direction du cabinet de management McKinsey. Alain Minck dirige une société de conseil aux chefs d'entreprise. Pascal Lamy est commissaire européen socialiste du commerce extérieur. En janvier 2003, Véronique Covin est toujours demandeuse d'emploi à Bayeux. Conception Laurent est demandeuse d'emploi à Bayeux. Gérard et Chantal Jarosset sont tous les deux demandeurs d'emploi à Bayeux. Solange Godinière est demandeuse d'emploi à Alençon. Huguette Tison est en congé de conversion comme Michel Poitevin et Marc Mézières. Yvette Josselin est en pré-retraite. Michel Le Guédé est demandeuse d'emploi à Argentan. Marie-France Sanchez et Florence Brière survivent toutes les deux avec une modeste allocation de solidarité. Sylvie Faucon est en contrat emploi consolidé. Claudine Guéné est demandeuse d'emploi à Argentan.
Alors, la mécanique du pire, le choix fait par Gilles Balbastre pour raconter cette histoire, c'est on a deux milieux, hein, deux milieux vraiment clairement identifiés, qui est le milieu des dirigeants et puis le milieu des salariés. C'est clairement distingué, Gilles, ça c'est un choix.
Alors, juste pour parler un tout petit peu quand même du film, et j'espère qu'on fera pas que ça dans cette émission, mais le film, au départ, c'était pas un film, c'était pas une enquête journalistique ou une enquête policière pour déterminer qui a planté la boîte. Est-ce que le jeu a été bien joué ou mal joué ? En partant même du principe que parfois les patrons jouent le jeu d'une façon où ils sont pas maîtres à la demeure. Ils jouent le jeu parce que, à ce moment-là, faut jouer le jeu comme ça. Et Moulinex, en cela, on a trouvé que c'était une entreprise révélatrice des mutations du capitalisme ces dernières années. Et ça, c'est avec un peu Frédéric qu'on a monté ça. Et Frédéric a trouvé intéressant la vie de cette entreprise parce que elle allait, au fond, dans tes travaux, dans ce que tu fais depuis pas mal d'années. Et Moulinex, en cela, au-delà de son histoire singulière, représente une mutation terrible, ravageuse de ce capitalisme qui va broyer au hasard. Moulinex aurait pu être Seb, on en parlera. C'est Moulinex qui tombe, et Thierry peut le dire maintenant aussi, Seb va pas forcément très bien actuellement.
Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pas en supprimant un concurrent ce qu'a fait Seb avec Moulinex. Seb va subir ce qu'a subi Moulinex, c'est une question de temps. Quand Seb s'est vu confier l'ensemble de la marque Moulinex et seulement 30% des effectifs, la bourse a augmenté de 25% dans la journée, l'action Seb. Bon, on a eu ça aussi chez Moulinex, quand Moulinex a racheté Krups. Il y a des phénomènes de bourse, on dit tiens, ça va bien, on a éliminé ce principal concurrent, et donc la vie sera meilleure. Non, la vie est pas meilleure pour le salaire de chez Seb aujourd'hui.
Excuse-moi pour préciser, j'ai pas voulu faire faire un film sempiternel film sur les salariés qui ont perdu leur travail. C'est peut-être ça aussi un peu de différence. C'est que je suis allé voir Thierry, je lui dis bon, on va pas continuer à faire un film où on voit les gars qui ont perdu leur travail, qui pleurent, etc. On l'a vu 100 fois et ça change rien. J'ai pas dit que ce film va changer quelque chose, mais on s'est dit j'ai envie de faire un film sur les maréchaux. C'est pour ça que 70% du temps de parole est donné au patron. Alors ça a pu choquer parfois des salariés de Moulinex qui ont dit ouais, le patron il parle trop. Mais j'ai voulu aussi opposer cette parole patronale, seule, dans leur intérieur, cadrée, où on voit dans des plans larges où ils sont, ça va pour eux, ça va toujours pour eux. Et j'ai opposé des interviews collectives, parce que pour moi c'était important de faire collectivement des interviews autour de leur dégât syndical, de 3 usines qui ont été fermées. Le film est monté sur un jeu un peu de schizophrénie, un jeu de ping-pong, où les patrons parlent, majoritairement ils expliquent ce qu'ils ont fait, et les autres disent ce qu'ils ont vécu. Et à chaque fois c'est un dialogue de sourds au fond, entre des gens qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. C'est un film de lutte de classe. Allez hop, c'est pas souvent qu'on en fait, hein. On en fait plus, on ne dit pas ce mot-là. C'est un film de lutte de classe. Les intérêts des ouvriers sont pas les mêmes que ceux des patrons. C'est banal ce que je dis. Mais de temps en temps, c'est bien de remettre une couche.
Alors, on peut prendre l'historique un peu, hein. Parce que on parle de patrons, mais c'est pas les mêmes patrons, peut-être. Entre Jean Mantelet, hein, qui est l'inventeur de Moulinex, de Légumex. On voit tous ces appareils qui sont montrés au début du film, et c'est touchant, c'est la nostalgie. On serait presque à verser une petite larme sur ce monsieur, qui était un patron tout à fait paternaliste, et avec les ouvrières qui disent « oui, oui, c'était bien, c'était le bon temps, etc. » Mais enfin, on apprend quand même qu'il y avait des heures de retenue, qu'il fallait pas parler, etc. Mais enfin, ça, c'est le patron à l'ancienne.
Marqué, tout était noté, il avait un carnet dans la poche, et dès qu'on faisait un truc, c'était marqué...
Tu pouvais pas quitter ta place avant.
Il faisait un trou dans le mur et puis qu'il nous guettait par le trou du mur.
Et là, il te mettait en punition.
Pas à genoux, mais au piqué.
Ah oui, oui. Comme les gamins.
Quand je suis rentrée en 65, on n'avait pas le droit de parler.
Qu'est-ce qu'il faisait?
Et ben, il passait avec une pancarte et ce soir, vous restez une heure de plus.
Oui, j'ai vu.
Quand on a 14 ans, c'est dur. C'est vrai que quand on n'a jamais travaillé, qu'on sort de l'école, oui. Mais bon, il y avait des postes très durs, c'est vrai. Mais bon, il y avait une bonne ambiance quand même.
On est en 1986-87, Mantelet à 80 balais, et il faut qu'il passe la main.
C'est une entreprise qui marche très bien.
Non, là, elle connaît quelques petits problèmes depuis la fin des années 70. Bon, Thierry peut en parler. Elle connaît un certain nombre de problèmes qui sont liés aussi à une crise mondiale que traverse l'économie. Les années 60, la fin des années 70, début des années 80.
Début des ennuis.
C'est le début des ennuis. Et pourquoi aussi économiquement, d'une façon générale?
Là, tu me fais faire de l'histoire ancienne.
D'accord.
Hein.
Frédéric Lordon.
C'est effectivement le début des années 70 et toute la décennie 70 et puis le début des années 80, ça va pas bien pour beaucoup de monde. Donc effectivement, on se retrouve en 86-87, Mantelet doit passer la main, il n'a pas d'héritier et la finance est en train de pousser, elle propose ses techniques au goût du jour. Et il y en a une qui s'appelle le LBO. Alors c'est la version anglaise, version française, le RES. Reprise de l'entreprise par ses salariés. Alors quand on l'entend comme ça, c'est un petit parfum de coopérative ouvrière, mais il faut pas s'y tromper. Si on a l'odorat un peu fin, ça sent tout autre chose, hein, en fait.
Reprise de l'entreprise par certains.
Voilà.
Et seulement.
Voilà. C'est-à-dire, les salariés sont priés de bien vouloir contribuer malgré tout, ce qui fait qu'ils vont s'aliéner à leurs frais, hein, ce qui est une trouvaille assez habile, hein, de la part du capitalisme. Mais le pouvoir, finalement, il est détenu toujours par les mêmes. Il y a une espèce de triumvirat qui est constitué de d'Arnaud, le directeur général de l'époque, Von Nuremberg, qui est le directeur financier, et puis Torelli, hein, qui est le directeur commercial. Et finalement, ce sont eux les fat cats, hein, c'est eux les patrons, c'est-à-dire la perspective du soviet s'éloigne, ça va, tout peut rentrer dans l'ordre.
Thierry, vous étiez dans l'entreprise?
Oui, bien sûr, j'étais déjà dans l'entreprise, j'ai vécu ça de très près. D'ailleurs, on a été, nous, à l'époque, le seul syndicat à appeler les salariés à ne pas être actionnaires de l'entreprise. À une époque où tout le monde disait l'avenir, c'est effectivement les propriétaires de son entreprise. Bon. On avait déjà, à l'époque, un peu de pressentiment sur ce qui pouvait en découler. Et effectivement, le triumvirat, les trois, Arnaud, Torelli, Van Orenberg, eux, ils ont monté leur société, qui était minoritaire au niveau capital, mais qui était majoritaire dans les droits de vote. C'est-à-dire qu'à eux trois, quand ils levaient la main, il y avait à l'époque 7000 salariés qui pouvaient voter différemment. À eux trois, ils faisaient la pluie de beau temps. C'est eux qui décidaient, avec des droits de vote triples. Ça veut dire que, déjà dans leur tête, ils s'étaient autorisés à dire, quand moi je lève la main, je compte trois fois plus qu'un autre. Et ça a été écrit, il y a eu à l'époque des génies qui ont écrit des textes sur la manière dont on pouvait, d'un point de vue légal, s'autoriser les droits de vote triples. Bon. Et Mantelet, on a tendance aujourd'hui à dire c'était le bon patron, le bon paternaliste, celui qui, etc., etc. Mantley avait déjà sa banque. Mantley, il avait sa banque qui s'appelait la FINAP, et déjà à l'époque, il empruntait de l'argent à sa banque qu'il remboursait avec le fruit du travail des hommes et des femmes chez Molinex. C'était un capitaliste comme les autres, avec sans doute ce génie créatif qu'ont pas aujourd'hui ceux qui ont dirigé l'industrie, mais il avait aussi une raison particulière sur son compte en banque. Hein. C'était pas quelqu'un qui était dénommé d'intérêt.
Ce triumvirat, on a compris, ils ont pris le pouvoir sur Molinex, hein, ça se résume à ça,
oui, oui.
Décide d'acquérir Krupp.
Oui. Ça, c'est la boulimie industrielle de ces années, quoi. C'est toujours la même question. Il faut toujours acheter des marques à l'étranger, les restructurer, autrement dit licencier, récupérer la marque commerciale et essayer, en accumulant les marques commerciales, de faire plus de chiffre d'affaires et plus de marge. Voilà. Alors il y a eu Krups, il y a eu Swan en Angleterre, il y a eu Jirmi en Italie, il y a eu Vistar au Mexique. Durant ces 4-5 années, le groupe n'a pensé qu'à acheter. Et après, quand on achète, faut payer. Et quand on paye et qu'on achète, il faut restructurer. Ça veut dire que, de toute façon, il y a eu des sommes colossales de mise pour accroître le chiffre d'affaires, accroître la marge, en disant plus on est gros, plus on est fort, plus on va être rentable. Et ben, la rentabilité financière, elle a eu lieu. Mais le bout du bout, une fois qu'on a tout payé et qu'on a dépensé des sommes colossales pour restructurer et pour licencier, et ben, on n'a plus l'argent disponible pour faire de la recherche, pour faire du développement. Et puis, le temps que les cadres s'occupent entre eux de savoir s'ils vont pouvoir avoir le 13e, le 14e ou le 15e mois de salaire, parce que c'est quand même de ça dont on parle, eh ben, ils gèrent pas l'entreprise comme ils devraient la gérer. Et là, le centre d'intérêt est complètement dévoyé.
Et là, dans le film de Balbastre, de Gilles Balbastre, on voit une émission de télévision économique, hein, qui traite de l'économie, hein, où c'est là, c'est les journalistes appuient, hein, tout à fait cette décision.
Dites-moi, ils ont fait une bonne affaire en rachetant Krups, Molinex?
Bah, je crois qu'il faut rappeler un petit peu l'histoire de Molinex. Ça a été racheté par les salariés il y a un peu plus d'un an. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ces salariés ont dû s'endetter, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent s'arrêter aussi d'investir.
C'est vrai qu'ils se sont endettés pour racheter leur entreprise et qu'ils continuent à investir, à l'image de leur président, qui est un industriel incroyable, extrêmement constructif, qui investit sur le long terme. Roland Darmon, on l'a vu dans le reportage, certains disent qu'ils ont aussi les yeux un peu plus gros que le ventre.
Moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Moi, je crois qu'il fallait vraiment le faire.
Et notamment l'émission C'est Capital, faut dire le nom, hein. Et ils vont dire c'est formidable. Darmon est un patron qui va de l'avant, qui est capable en plus de prendre une boîte allemande, vous vous rendez compte, c'est un genre de cocorico un peu bête comme ça, mais ça s'inscrit dans tout ce que tu dis, au fond, dans cette mutation peu à peu.
Ça, c'est le commencement de la grande vague des fusions-acquisitions qu'on va connaître alors jusqu'à la fin des années 90, et on a vu le type de dégâts que ça peut donner. C'est-à-dire, formellement, ce que font Darnaud, Torelli et Van Nurenberg s'assimile d'assez près à ce que va faire Messier avec Vivendi et tant d'autres. Et le pire, c'est que ce sont des contraintes structurales assez fortes et assez irrésistibles qui les y poussent. C'est-à-dire que la logique grossir ou périr est une logique qui s'impose à eux d'une manière extrêmement impérieuse. Mantley, lui, il a la chance d'être allé au bout du monde ancien, c'est-à-dire le fordisme finissant. Il a vu les premiers moments où il commençait à se détraquer, mais il n'a pas vu la suite, finalement. Darnaud et sa bande se retrouvent dans un monde qui a déjà considérablement changé. La déréglementation a fait de sérieux progrès, la concurrence s'est intensifiée, ils se retrouvent avec des concurrents sud-est asiatiques, avec la grande distribution qui pressure tout le monde, et ils se disent, ce qui n'est pas complètement illogique, ils se disent, face à ces très grands acheteurs que sont les opérateurs de la grande distribution, il faut que nous soyons de très grands vendeurs. Voilà. Et je fusionne pour gagner du pouvoir de marché, pour gagner du pouvoir de négociation. Et ça, c'est un enchaînement qui aurait certainement pas déplu à Marx. C'est-à-dire que les capitalistes sont poussés par les forces mêmes du capitalisme à entreprendre des choses, faute de quoi des enjeux vitaux seraient en question, faute de quoi ils risqueraient leur vie, mais des choses qui, au bout du bout, vont les mener quand même à une sorte de catastrophe, selon les mécanismes que Thierry Lepan vient de décrire. C'est-à-dire, on achète, mais souvent on achète trop cher, il faut restructurer, on se met en danger, le bilan est grevé par de la dette et on va traîner ça pendant toute la décennie 90.
La bombe finit par éclater en 1993. Molinex, lourdement endetté, est frappé de plein fouet par la grave récession que connaît l'Europe cette année-là. Les banques exigent alors la sortie du RES.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette décennie 90?
Alors, dans la décennie 90, il y a que le triumvirat s'épuise parce que Moulinex prend en pleine poire la crise des années 92-93. Il faut se souvenir que ce sont des temps de très haute instabilité monétaire. Le système monétaire européen a failli exploser. Les principaux concurrents ont dévalué leur monnaie, la lire, la livre, la peseta, etc. Et donc, les avantages compétitifs de Moulinex sont très sérieusement entamés. La croissance dégringole, c'est la récession la plus importante depuis la fin de la guerre, 1993. Et donc, Moulinex souffre comme tout le monde. Et Moulinex était porté à bout de bras par les banquiers pendant tout le début des années 90, et maintenant, les banquiers n'en veulent plus de Moulinex. Et les banquiers disent, bah, écoutez, nous, de toute façon, on jette l'éponge, donc si vous continuez comme ça, vous mettez la clé sous le paillasson, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'aller vous faire voir à la bourse. Mais vous allez voir, c'est hyper moderne, et c'est vachement sympa. De toute manière, ça va accélérer votre développement, vous n'avez qu'à y gagner. Et donc, moyennant un prêt relais obtenu par l'entremise des politiques, par la Caisse des dépôts, Moulinex déboucle son RES et va se lancer à la bourse et faire entrer les actionnaires, la grande figure des années 90.
Comment réagissent les salariés à ce moment-là, Thierry Lepan?
Mal, parce qu'à chaque fois...
Vous comprenez tout ça, vous êtes pas idiot.
Non,
très bien.
C'est pas parce que ce sont des ouvriers, quoi.
Non, on n'est pas idiot, on a bien vu le coup venir. On a bien vu ces financiers exiger le débouclage du RES, et les banques, à nouveau, mettent la main sur le groupe et exiger, pour plus de rentabilité, des plans de licenciement. Jules Coulon est arrivé pour sortir Moulinex du RES, comme il le disait. Il l'a fait, il a remis Moulinex entre les mains des banques, et puis après les banques ont mis ça entre les mains des actionnaires, avec à chaque fois des plans de restructuration d'ampleur. Il y a eu 7 plans sociaux en 10 ans chez Moulinex, plans dissociaux, puisqu'à chaque fois c'est tout sauf du social, ce sont des gens qui sont mis au chômage, qui sont sortis de l'usine, avec des fermetures d'usines comme Mamers, Donfront.
Alors, quelle réplique vous avez, vous, les salariés, les syndicats, face à ça?
Notre réplique est de 2 heures. La première, c'est savoir dire non. Voilà. Moi, je pense que quand on est syndicaliste, la première des choses, c'est savoir dire non. Voilà. Dire non aux suppressions d'emplois, non à l'argent qui va à l'argent, puis non à la misère, parce que c'est quand même ça qui nous était promis et qui nous est promis encore aujourd'hui. Et puis après, si on est syndicaliste intelligent ou un petit peu intelligent, on peut dire non à ça et oui à autre chose. Bon, et on s'est battu, nous, justement, pour que au sein des ministères qui se sont succédés, au sein des cabinets ministériels, pour qu'on puisse avoir une autre logique que celle qui était imposée par les libéraux qui gèrent et continuent de gérer aujourd'hui les entreprises, tous ces marchands qui font la pluie, le beau temps, et qui font que les salariés existent ou n'existent plus. Et on a proposé à Pierret à l'époque de faire un vrai travail sur les conditions nécessaires pour produire en France et en Europe de l'électroménager. Et ça, on n'a jamais réussi à travailler. On a été mis en échec par les gouvernements, tous les gouvernements, parce qu'ils voulaient absolument ne pas qu'on puisse contester la logique économique qui prévaut encore aujourd'hui.
Frédéric Lordon, là-dedans, bon, vous êtes économiste, vous nous décrivez les mécanismes économiques, mais il y a une charge idéologique derrière tout ça. Enfin, il y a un contenu idéologique, il y a une vision d'une société, d'un monde.
Alors oui, bien sûr, mais c'est ça qui est très compliqué, c'est que
l'économie est produite par des idées.
Absolument, et de toute façon, les structures économiques sont faites par des hommes. Vous connaissez la phrase de Marx, les hommes font leur histoire, ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Au bout d'un moment, cette histoire leur échappe, et puis ils en ont oublié les coups de force inauguraux, donc ils se souviennent plus bien de ce qui s'est passé. Mais tout ceci est fait par des hommes, en effet. Je veux dire, j'ai toujours eu beaucoup de réticence à employer le mot de mondialisation, parce que je trouve que ce mot est exposé au risque de fonctionner comme un mythe, et un mythe rhétorique. La difficulté principale de ce terme, c'est qu'il donne à croire que la mondialisation, c'est un truc qui tombe du ciel. Voilà. C'est les forces du cosmos qui sont à l'œuvre. Évidemment, il n'en est rien. La mondialisation, c'est le produit d'un cumul de décisions de politique publique. Donc, idéalement, en menant l'enquête, on pourrait dire qui, quand et en quel lieu on trouve derrière toutes ces décisions de politique publique.
Pourquoi vous faites pas ça, au fait? C'est pas rigolo, les chercheurs, les...
Mais je le fais autant
qu'il faut nous le raconter, ça.
Mais je le fais autant qu'il est dans mes moyens, et je l'ai déjà largement raconté dans des petits ouvrages qui sont précisément voués à sortir un peu du registre académico-académique.
Dont les titres s'inscrivent en bas de votre écran.
Voilà, dont les titres s'inscrivent en bas de votre écran. Par exemple, sur la déréglementation financière, que je tiens pour être la réforme de structure la plus importante qui est connue la société française dans le dernier demi-siècle. C'est pas rien. On peut donner des noms, c'est extrêmement simple. Pierre Bérégovoy, ministre des Finances socialiste. Claude Rubinowicz, conseiller technique à son cabinet. Jean-Charles Naouri, directeur de son cabinet, que comme par hasard, nous retrouverons quelques temps plus tard dans un fonds d'investissement qui sera l'un des principaux actionnaires de Moulinex. Ah. Comme c'est curieux. Donc effectivement, ce sont des hommes qui font ça, des hommes avec des idées. Il faut pas céder à la théorie du complot. C'est pas simplement une bande de kabbalistes avec des bonnets pointus qui se sont réunis dans un coin et qui ont décidé du plan de la mondialisation sorti tout armé de leur tête. Il y a aussi le travail des forces endogènes du capitalisme qui leur donne un secours. Mais sans ces idées, sans ces entreprises idéologiques concertées, évidemment, ces choses-là ne se feraient pas. Et le fin du fin de l'idéologie, comme vous le savez, c'est de faire oublier sa vraie nature d'idéologie. C'est un discours qu'on entend beaucoup ce temps-ci, surtout chez nos gouvernants. Vous avez remarqué qu'ils se piquent tous de dire que c'est la fin des idéologies, ça fait un moment que ça dure, et que eux gouvernent au-delà des idéologies. Évidemment, on est au plus profond du profond de l'idéologie.
Tous ceux qui amènent une nouvelle idéologie disent qu'il n'y a plus d'idéologie.
Bien sûr.
C'est comme pour les tabous.
Et je voudrais rajouter dans toute cette liste, et aussi un certain nombre qui servent leur intérêt. C'est ça aussi, au jour le jour, servir ses intérêts, ses intérêts de classe. Jean Charnoury en est le prototype. Effectivement, pour reprendre, il est directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy en 1986. C'est lui qui pond, en fait, la loi de dérégulation des marchés financiers. Il quitte le gouvernement, ben, vu qu'ils ont perdu en 86, la gauche quitte le gouvernement. Il monte son fonds d'investissement Euris en 87, grâce à Rothschild. Oui. Il devient le propriétaire de Casino et de Rally en 90. Et il devient l'actionnaire majoritaire de Moulinex en 94, quand il y a le débouclage du RES. Et Jean Charnoury, qui est le seul qui a refusé dans ce film à parler, mais je comprends pourquoi, va en fait, au bout de 3 ans de passage à Moulinex, fermer 2 sites en France, d'autres dans le monde, licencier plus de 2500 personnes et faire un plus-value Thierry assez confortable en sortant en 98 de Moulinex. Le plus-value est conséquent, non?
C'est 40 fois la mise. Chacun en rêve quand il sait ce qu'il gagne. Eux, ils l'ont fait, quoi. Ils se l'ont fait pour eux. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'ils l'ont fait en bourse, quoi. Ça veut dire que c'est même pas le résultat de l'entreprise qui a permis à des actionnaires, on en pense qu'on en veut, de rémunérer une forme de capital. Là, ils l'ont fait uniquement sur la bourse et uniquement en annonçant des plans de structuration d'ampleur et puis des licenciements. Avec d'ailleurs des phrases toutes faites qu'on entend encore aujourd'hui. Cette fameuse logique industrielle, comme si il n'y aurait qu'une logique industrielle. On a aussi les plans de sauvetage. Aujourd'hui, on entend ça. Vaut mieux savoir se couper une main pour sauver le bras, etc., etc. Toutes ces formules qui ont été usées et abusées et qu'on retrouve aujourd'hui, y compris dans tous les journaux, chaque fois qu'un patron veut licencier. C'est toujours pour sauver l'entreprise, c'est toujours dans le cadre d'une logique industrielle, et puis on est confronté à ça tous les matins en se levant.
Frédéric Lordon, c'est vrai que dans le film de Balbastre et dans le papier que vous consacrez à ce sujet dans le monde diplomatique, il y a le langage qui est formidable, hein, downsizing, il y a tout un langage, pas seulement ce côté managerial, engineering, etc., mais il y a toute une tricherie sur le mot, langage.
Ce sont des grands poètes. Bah, bien sûr, qui prend le langage prend le pouvoir. Hein. Le pouvoir symbolique, il est dans les mots, ça c'est sûr. Et il est derrière le pouvoir politique. Donc effectivement, il y a tous ces termes en ing qui sont bizarres. Hein. Downsizing, reengineering, outsourcing, qui nous viennent bien sûr des revues de management anglo-saxonnes et qui ont pour finalité de montrer qu'on est quasiment dans le registre de la science. Quoi. C'est-à-dire, ployez le genou. C'est le cortège de l'inéluctable qui passe devant vous. De toute manière, ce sont les lois de la nature économique qui défilent dans ces noms majestueux. Sur le thème des manipulations du langage, il y aurait tant à dire. Dans un registre un petit peu différent de celui de Moulinex, il faut savoir que certains économistes très libéraux et pourtant très réputés dans le monde académique ont entrepris de nommer répression financière, vous m'entendez bien, répression financière, le contexte qui règne dans certains pays où on a refusé de déréglementer complètement la bourse. Là où la bourse n'est pas déréglementée, là où les marchés financiers sont encore un petit peu contrôlés, c'est la répression financière. Vous voyez, le courageux investisseur qui résiste à la dictature des non-marchés. Quand on en est là, on se dit qu'effectivement, ces gens-là sont allés très loin et qu'ils sont pas loin d'avoir gagné le combat.
Mmh. Même des mots comme flexible, mobilité, même le mot libéral lui-même.
Libéral capitaliste, mondialisation, sur la liberté. Oui. Mondialisation, c'est un universel. La flexibilité, vaut mieux être flexible que rigide. Et quant à l'État, ça serait passerait tellement mieux s'il était mince plutôt qu'obèse. Donc effectivement, on pourrait recenser comme ça dans le lexique économique ordinaire, alors celui des journalistes, des commentateurs autorisés, des experts en peau de lapin, enfin tous ceux qui ont en général droit à la parole, sauf dans quelques émissions particulières, on pourrait tracer effectivement toutes ces manipulations langagières qui sont autant de manipulations idéologiques.
Ah non, l'arrivée de Naouri que les salariés dans l'atelier de production ne connaissaient pas. Que ce soit Naouri ou machin, ils avaient bien vu, mais bon, eux, tout ce qu'on leur demandait, c'est toujours d'en faire plus. Donc ils continuaient à en faire plus. Alors, enfin, voilà. Donc après, qui tenait les rênes de la finance Il voyait bien qu'il y a quelque chose qui s'était passé quand même.
C'était un financier qui arrivait, donc c'était que le profit. Voilà. Ça, c'était les
discours. C'était une histoire de gros sous.
Voilà. Voilà. Oui, les gens disaient attention, les requins de la finance arrivent. Ouais, et ouais, ça, on l'entendait dans les ateliers.
C'est
partout,
dit c'est la guéguerre.
Donc il y avait déjà une méfiance. On savait que c'était un industriel, monté, c'était un financier. Et les gens commencent à se poser des questions en disant il y en a marre.
Gilles Balbastre.
On parlait d'idéologie, moi je parlais aussi de certains qui vont servir leur intérêt, hein, c'est important. On parlait de Naouri, mais là on voit aussi un certain nombre de personnages qui sont caractéristiques aussi d'abord d'un pays comme la France. Naouri était un gars du Parti Socialiste, proche du Parti Socialiste. On va voir arriver quelqu'un comme Pierre Blaillot, énarque comme Naouri, proche du Parti Socialiste comme Naouri. On va voir des gens, par exemple, rentrer dans le conseil d'administration de Moulinex, Pascal Lamy, commissaire européen socialiste actuellement. On va voir des gens comme Alain Main, qui se dit social-libéral, énarque lui aussi. Effectivement, là, Thierry, il y a un genre de caractéristique aussi de la situation française et d'une situation où se mélange une classe sociale, un groupe social, au-delà des particularités politiques.
Bah, Moulinex, c'est l'histoire du capitalisme, on le disait tout à l'heure. C'est aussi, comme tu dis, l'histoire d'une certaine classe politique française. Hein. C'est l'histoire d'une grande conversion. Je veux dire, la citation de Pierret sur laquelle on a commencé l'émission, laisse pantois. Hein. Moi, j'en suis resté avec la mâchoire pendante, mais comme un tiroir de commode fracturé. Hein. C'était extraordinaire. Et on se pinçait mutuellement. Moi, j'aurais, dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais espéré un aveu pareil. Et là, il était clair cristallin.
Gilles, pour préciser quand ça a été dit, ça, quand même.
Le 23 avril 2002. Si mes calculs sont bons, deux jours après le 21 avril. Et la thèse de Pierret, c'était que si la gauche avait échoué, c'est en raison de ce défaut de pédagogie mondialiste du Parti Socialiste.
Pédagogie, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, Thierry Lepan. Je vous rappelle que vous étiez le délégué CGT de Moulinex. Au cours de cette histoire, vous l'avez vécu, vous avez lutté.
Oui.
Mais, encore une fois, vous, salariés, syndiqués, est-ce que vous auriez pu faire autre chose?
Oui, avec du recul, encore aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus, quoi.
Voilà,
c'est-à-dire que on a joué notre rôle d'opposition, on a joué notre rôle d'alerte, on a joué notre rôle de proposition, et on s'est retrouvé face à des individus qui, de toute façon, étaient inscrits dans une logique. Ils arrivaient quasiment préformatés. On voyait Naouri au conseil d'administration, Pierre Blaillot dans les usines ou au ministère, on avait les mêmes gens qui nous disaient exactement les mêmes choses. Aucune imagination. Et quand on leur parlait de développement et des produits innovateurs ou de politiques sociales différentes, ils n'étaient pas capables d'écouter ce qu'on pouvait leur dire. Ils avaient le sentiment d'avoir forcément le bon plan, que ça allait produire les bons effets et qu'en bout de course, tout le monde serait plus heureux. Alors c'est vrai pour eux parce que eux, ils s'en sortent bien. Nous, aujourd'hui, on est encore pour beaucoup privés d'emploi et en attente de retrouver du travail. Moi, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est leur arrogance, quoi. C'est-à-dire que c'est cette manière qu'ils ont de venir vous voir en vous disant, avant moi, vous n'existiez pas. Voilà. J'arrive. J'ai le bon plan. Ça produira les bons effets. Puis quand ils partent, ils vous disent, on a fait ce qu'on a pu. Ça aurait pu être pire. Mais bon, si on a échoué, c'est de la faute des autres. C'est toujours de la faute des autres. C'est leur plan. C'est eux qui le mettent en œuvre. Et c'est de la faute des autres. Et quand on voit effectivement tous les patrons défiler dans le film de Gilles, moi, je les ai revus. Je les connaissais tous, pratiquement parfaitement. Et je trouve qu'ils ont encore aujourd'hui la même arrogance qu'hier, quoi. Ils ont mis l'entreprise en dépôt de bilan, ils ont mis 3600 personnes en France au chômage, plus de 2000 à l'étranger. Ils ont perdu la marque Moulinex pour la confier, honte de la honte, à son principal concurrent. Et puis, aujourd'hui, aucun remords, aucun mot pour le personnel, pas l'ombre d'une prise de conscience différente. Non, pour eux, ça va toujours bien aujourd'hui.
Combien ça nous coûte à nous les contribuables une affaire comme ça? Combien ça coûte à la collectivité.
Alors c'est assez, c'est
qui
assez,
paye
bon, c'est, alors, ça c'est assez facile. On est d'abord dans un monde où l'État est difficilement proactif. Voilà. Par contre, il est très réactif quand il faut payer pour aider les actionnaires à s'en sortir, quoi. Et la convention Molinex, c'est 102 millions d'euros qui ont été dépensés pour, d'une part, essayer de payer un peu les cellules de reclassement dont je faisais le bilan tout à l'heure, et puis pour essayer de redonner des fonds à les entreprises qui vont venir sur les territoires, qui commencent à venir sur les territoires, pour à nouveau embaucher, exploiter, et demain, sans doute, licencier. On est dans l'abondance, dans ces cas-là, de fonds publics qui servent effectivement l'intérêt de ceux qui gèrent le monde aujourd'hui et qui ont intérêt à ce que l'argent rapporte.
C'est une notion qui n'est pas bien claire dans l'opinion.
C'est dit par exemple par le directeur des ressources humaines, Max Mata, sur le plan social de restructuration de 1996, un des nombreux plans de restructuration qui met 2500 personnes à la porte et qui ferme deux usines en France, deux sites. Max Mata, le directeur des ressources humaines de l'époque, dit que ça a coûté très cher à la collectivité. Dans le film, il le dit. C'est quand même bien, c'est pas Thierry Lepan, bon, délégué CGT, hein, donc on sait un peu, faut se méfier quand même. Non, c'est le DRH qui dit ça. C'est le DRH qui dit ça a coûté très cher à la collectivité. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à effectivement, au bout du bout, qui c'est qui paye et qui c'est qui paye pas. Pendant tout le film, j'avais dans la tête cette fameuse phrase de la société du risque, hein, du baron Sellière et de Kessler, hein, juste avant, quand il était vice-président du MEDEF. C'était la société du risque. Hein. Il faut redonner le risque, le goût du risque. Mais au fond, au bout, qui c'est qui prend un risque? C'est quand même les salariés. C'est pas les entrepreneurs. Au final, on s'aperçoit que les salariés de Molinex, ils ont tout accepté.
On le voit dans le film, enfin, les intérieurs dans lesquels ils sont filmés, c'est-à-dire chez eux, c'est pas des intérieurs d'aventuriers.
Moi, je pense que c'est peut-être la chose qui met le plus en colère. Gordon. Il faut dire de ce point de vue que le générique du film est assez dévastateur, hein, parce que en quelques vignettes, on voit se succéder d'abord les dirigeants de Molinex et on connaît leur sort après Molinex, et puis après tu fais la même chose avec quelques salariés de Molinex, et la comparaison des deux ensembles de destinées rend un effet qui est assez frappant. Et c'est vrai que il faut pas se tromper sur ce qu'on peut véritablement reprocher à ces seigneurs qui nous dirigent et à ceux qui en particulier ont dirigé Molinex. Il y a une arrogance liée à cette apologie de la société du risque, alors qu'eux-mêmes ne prennent strictement aucun risque, qui est absolument révulsante. Maintenant, et là je sais que c'est délicat à dire, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thierry à l'instant, et c'est pas facile à dire en même temps. Il faut bien comprendre que les salariés sont des dominés, ultra dominés. Mais les patrons ne sont pas complètement maîtres chez eux. Ils font des choses qui s'imposent à eux par le jeu des grandes contraintes qui sont très loin, très abstraites. Et je sais que c'est difficile de parler de ces choses-là. Les grandes contraintes des structures du capitalisme. La déréglementation de la bourse, la déréglementation de la concurrence et des marchés de biens, la libéralisation des investissements à l'étranger, etc., etc. Ce qui fait que ces gens-là, eux aussi, réagissent en fonction de ce que sont leurs enjeux existentiels. Pierre Blaiot veut persévérer dans son être de patron. Mais il a sur le dos des concurrents sud-est asiatiques dont on n'empêche absolument plus les importations et une bourse agressive avec des investisseurs qui réclament leur 15% de retour sur fonds propres. Eh bien, il sait parfaitement que s'il ne manie pas, avec ostentation d'ailleurs, hein, le yatagan pour dire à la bourse « Regardez, je fais le downsizing que vous aimez », le cours de Molinex plongera, Molinex sera victime d'une OPA et Blaiot himself sera débarqué. Et donc, si l'on veut vraiment diriger correctement cette colère, il faut la diriger là où elle doit l'être, c'est-à-dire vers ces coups qui ont été joués très en amont, au moment où on a déréglementé les marchés, au moment où on a libéré les forces de la finance, car ce sont ces opérations-là qu'on a maintenant oubliées, dont on a perdu le souvenir 10 ans ou 15 ans auparavant, qui ont créé les contraintes qui font que les gens se conforment aux forces qui s'imposent à eux.
Ce sont les flammes d'une colère qui viennent embraser le regard de l'éparpillement de mes frères. Les copains du « c'est pas trop tard ». C'est une joie démesurée de faire les grandes découvertes de nos histoires sans passé, de nos conneries recouvertes. Notre fierté d'être sans haine et de retourner au charbon en gueulant « les gars, faut qu'on s'aime et le chemin sera moins long et c'est pas fini et ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fourri. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. » Si on fait la collecte des rires, c'est pour préparer nos combats. C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire à part regarder plus en bas. Et si on mélange nos pleurs dans une mer d'amitié, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Quand de sublimes engueulades viennent allumer le petit jour, c'est la honte d'un monde malade. Et c'est pour ça qu'encore on courait. C'est pas fini et ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. Et vous êtes en timidité, tellement que vous aimez les autres. Pas besoin de vous imiter, passez, je vous aime, c'est vous mes autres. Quand la folie dévaste tout, on voyage par petits bouts de phrases, un tour de terre en rien du tout. C'est notre cafard qu'on écrase. Quand on prend le temps de s'asseoir au comptoir des quand même contents, on se dit que ça s'appelle l'espoir. On se dit qu'on a encore du temps et que c'est pas fini et que ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. À l'attaque.
Frédéric Lordon, pour finir cette émission, donnez-nous la solution.
Moi, je vois deux voies empruntées. Gilles, tu dis, il y a une machine idéologique. Cette machine idéologique a produit aussi une machine objective, avec des forces objectives et des contraintes objectives. On pourrait imaginer, par une expérience de pensée, le cas d'une entreprise qui serait conduit inexorablement à la faillite, dont le patron se serait comporté de manière, on va dire, entre guillemets, honnête et de bonne foi, simplement en réaction aux forces qui s'imposent à lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Si on est écrasé par une fatalité de cette sorte, comment on peut y résister? La première chose à faire, c'est de dire quel est le vrai enjeu du débat. Je répète, à mon sens, ce sont les structures de la mondialisation qui doivent être en question, et la mondialisation n'est pas terminée. Je vous rappelle qu'on s'apprête à déréglementer le secteur de l'énergie, et peut-être qu'il y aura un EDF qui connaîtra, ou un de ses successeurs, qui connaîtra le même sort que Moulinex. Mais dans 20 ans.
Ou que France Télécom.
Ou dans 20 ans, parce que, et on aura perdu le souvenir de la déréglementation du secteur de l'énergie en 2004. Donc, il y a encore des choses sur lesquelles il faut résister. Et la deuxième chose à faire, me semble-t-il, c'est de contester le monopole de la logique économique comme principe organisateur de la société. Pascal disait, la tyrannie, c'est un désir de domination universelle hors de son ordre. Nous vivons dans la tyrannie du capitalisme. C'est-à-dire, on peut très bien faire le constat que oui, les actionnaires demandent ceci, etc., que au nom de l'efficacité économique, il faut regrouper les sites de Moulinex, qu'il faut réorganiser le... Certes, d'accord. Mais cette logique-là n'a pas nécessairement à avoir le dernier mot. Et on peut très bien lui opposer d'autres logiques. La logique de la vie des salariés, par exemple. Et de renoncer à quelques points de profit.
Thierry Lepore, tout ça traduit maintenant, quand vous êtes dans une réunion syndicale les salariés, comment vous traduisez ce que dit Lordon?
Mais les salariés comprennent bien ce à quoi ils sont confrontés, même s'ils n'ont pas toutes les solutions. Et même s'ils ils pensent parfois à tort que tout ne dépend pas d'eux. Dans le livre qu'on a fait avec Dominique Gros et Michel Dagneau, il y a 10 salariés qui parlent, et sur les 10, il y en a 3 ou 4 qui disent il y a aussi une question politique. Donc ils voient bien que c'est la question politique elle est posée. Et en fait, ceux qui nous disent aujourd'hui qu'il faut vivre dans un monde où le risque devient la condition nécessaire existentielle, j'allais dire. Là, ben, on voit bien que pour eux, pour les patrons aujourd'hui, eux, ils réclament non pas du risque, mais des garanties. Aujourd'hui, le MEDEF, qu'est-ce qu'il réclame? Pouvoir embaucher quand il veut, pouvoir exploiter comme il veut, pouvoir licencier comme il veut, et y compris définir en amont du contrat de travail les conditions du départ du salarié. Ça, c'est pas de la garantie, ça, pour un patron. Eh ben, les salariés aujourd'hui, ils ont le droit aussi d'exiger à ce qu'ils ne soient pas traités comme une marchandise comme les autres, à ce qu'ils soient respectés et à ce qu'ils aient des nouveaux droits. Quand on réclame aujourd'hui, nous, dans nos réunions syndicales, à ce que le salarié puisse avoir un déroulement de carrière tout au long de sa vie, quels que soient les aléas économiques, sociaux, politiques, commerciaux, à ce que la vie de l'homme au travail ou de la femme au travail s'inscrive dans le temps, avec des périodes de formation, des périodes de production, des périodes peut-être de mutualisation de savoir, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon syndical, un nouveau statut du travail salarié. On sent bien qu'on sort d'une question politique, parce qu'aujourd'hui, et économique, parce qu'aujourd'hui, les patrons, ce qu'ils veulent, c'est que le salarié ait peur le matin en arrivant au travail pour pouvoir l'exploiter comme il le veut, et on lui dit « Attention, mon gars, si t'es pas assez bon, c'est le chômage ». Et ça, c'est une expérience moi que je retire des luttes y compris actuelles quoi. Il y a vraiment besoin de d'une part de résister, d'autre part de proposer et puis d'agir le plus collectivement possible pour changer la donne. C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de travailler dans un monde différent, de changer le monde dans lequel nous sommes.
Alors, dernière proposition, c'est peut-être aussi de venir discuter autour de projections de films. Le Moulinex, par exemple, passe samedi 28 à Bouxwiller dans le Bas-Rhin. C'est une fête de la CGT. Il y aura Thierry à moi. Et c'est important aussi, sur le terrain, ben, de projeter.
Il y a des pom-pom girls,
Non, mais il y a des discussions. Et aussi, le 18 mars à Lille, lors d'un festival, il y aura aussi, effectivement, de nouveau, la projection du film. Et avec des débats. Et je pense que ça aussi, il faut remettre, sur le terrain, la lutte et le débat, les échanges entre intellectuels, artistes entre guillemets, et aussi ouvriers.
Petit bilan, le chômage a une histoire, ces deux films, enfin films en deux volets diffusés sur la 5, il y a eu toute une suite, il y a eu toute une suite de projections, de débats.
Mais oui, mais oui. C'est là aussi où ça, c'est intéressant faire des films avec des camarades, camarades intellectuels aussi, etc. C'est que le chômage est une histoire maintenant, il vit, il est projeté dans des tas d'endroits en France, il y a des discussions derrière, Moulinet, j'espère que ça va faire la même chose, il y aura des discussions derrière, il y aura Thierry qui viendra, il vient déjà, on l'a déjà fait, on va en faire d'autres, Frédéric aussi va en faire, et les gens sur le terrain, ils sont demandeurs.
Merci à tous, merci à Gilles Balbastre, Frédéric Lordon et Thierry Lepan. Bouquin de Frédéric Lordon, Et la vertu sauvera le monde, dans la collection Raison d'agir. Moulinex, Ils laisseront des traces, Dominique Gros et Michel Dagneau, aux éditions Isoët. Et puis évidemment le film de Gilles Balbastre qui passe ce lundi sur la 5 à 15h45, Moulinex ou la mécanique du pire. Technique aujourd'hui, Michel Thomas, Antoine Viossa. Assistant Koye Nguyen, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je vous rappelle le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, le 01 56 40 37 37. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi à 17h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut!